Bonjour à tous, merci Madame Stalen de me laisser la parole encore cette année. Oui, ça fait cinq années que vous subissez mes foudres sur la gastronomie. On a fait pas mal de régions, il va falloir qu'on se creuse pour les années à venir, parce que là je pense qu'on a à peu près fait le tour des grandes régions, il en reste encore une ou deux, mais après il va falloir soit recommencer, soit trouver une autre approche. Mais bon, la Vénétie, voilà, c'est la région qui manque, qu'on n'a pas faite encore, le Nord, la Vénétie, toutes ces régions-là. Mais après, il y a plein d'autres choses. On peut faire les vins, on peut faire les huiles, on peut faire les fromages. Enfin bon, non, il y a encore de quoi tenir pour les 15 prochaines années. Au moins, si vous voulez toujours de moi, il n'y a pas de problème. Le temps que ce bazar se mette en route, donc on va parler un petit peu ce soir de la gastronomie des deux îles, la Sicile et la Sardaigne.
Pour annuler l'ouverture. Non, je ne veux pas qu'il annule l'ouverture. Je voudrais qu'il me l'ouvre. Je voudrais qu'il me l'ouvre.
Ah, bon souhait.
Eh ben voilà. Fallait lui demander. Alors. Vous avez bien fait d'éternuer, ça lui a fait peur.
Du coup, vous éternuez, ça l'a calmé. Il a décidé de sourire. Il s'est dit des fois qu'il s'énerve. Donc la Sicile et la Sardaigne, sachant que, bah, à l'évidence, ce sont deux îles qui ont des histoires qui ne sont pas forcément communes, des traditions qui ne sont pas forcément communes, mais on retrouve quand même un certain nombre de points communs, notamment bon, le fait que ce soit une île, ce qui implique bêtement quelque chose, c'est qu'il y a de la mer, et donc les ressources maritimes dans les deux cas sont quand même assez importantes. Dans les deux cas, ce sont des îles qui ont peut-être encore plus que l'Italie changé pas mal de mains ou de pouvoir ou d'influence. Ce sont des îles qui sont des carrefours d'influence. Et qui dit carrefour d'influence en matière de gastronomie dit carrefour d'apport de culture, évidemment au niveau de l'art, évidemment au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau des aliments et des ingrédients utilisés. Donc on va commencer par la Sicile. Et puis après on passera à la Sardaigne, sachant que du coup la Sardaigne, il y a des choses que je ne vais pas forcément redire parce qu'il y a un certain nombre de points communs qui sont liés à ces éléments communs justement. Si vous avez des questions ou des commentaires, surtout n'hésitez pas, ce sera avec plaisir si je peux y répondre. Donc on va faire un petit tour de géographie. Qu'est-ce qu'il me veut lui?
Non, je ne l'autorise pas. Non.
On va faire un tout petit coup de géographie, histoire de voir un petit peu de quoi on parle et pourquoi. La gastronomie sicilienne, elle est encore plus marquée, on va dire, par l'histoire de l'île, peut-être, que celle de la Sardaigne. La Sardaigne a un tout petit peu moins changé de main, et reste un petit peu plus stable dans le temps, et du coup, il y a un tout petit peu moins de gens qui sont passés par là. Et puis après, on parlera, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis après, j'ai amené 3-4 petites babioles à grignoter, histoire de quand même, pas faire qu'en parler. Donc, les deux îles, les deux choses importantes, c'est que la Sicile, pour commencer par elle, elle est franchement tout près de l'Italie. Mais, et j'ai pas réussi à trouver une carte assez grande pour que ça se voit, elle est aussi tout près de la Tunisie. Et donc, on se rend assez vite compte que c'est vite devenu un lieu de passage, au moins de cette influence-là. Et si on regarde, on n'est pas non plus très loin de la Grèce. On n'est pas non plus très loin de beaucoup de choses dans le bassin méditerranéen. La Sardaigne, pour le coup, elle est très très proche de la Corse. Et du coup, ben, ceux qui connaissent bien la Corse vont un peu avoir l'impression que je fais un exposé sur la gastronomie corse, parce que quand on regarde, il y a quand même énormément de points communs. Alors bon, les Sardes ou les Corses me diraient pas du tout, c'est très différent, mais bon, si on regarde ça sans parti pris, on se rend compte que c'est quand même assez proche finalement. La Sicile, on voit que c'est quand même une île qui est assez étalée, qui a différentes côtes et différents centres d'intérêt, plus ou moins nord, plus ou moins sud. Quant à la Sardaigne, elle est plutôt en longueur, ce qui veut dire qu'entre le nord et le sud, il y a quand même une différence à la fois de climat, de température, d'aridité des sols, qui fait qu'il y a certains produits qui vont mieux dans le nord et d'autres qui vont mieux dans le sud. Dans tous les cas, comme dans la cuisine italienne, c'est quand même des cuisines très locales, très régionales, et que bah, la cuisine sicilienne ou la cuisine sarde, c'est toujours un peu difficile, et que dans chaque région, chaque petit quartier, voire village, on trouve des spécialités locales qui sont soit des variantes des spécialités, on va dire, régionales un peu plus grosses, soit des choses très spécifiques. Alors, juste une carte de Sicile un peu vite pour voir. Malheureusement, je me suis rendu compte juste avant de partir qu'elle n'était pas super claire. Dans les villes importantes, on a Marsala, qui est ici, dont on parlera. On a Trapani, qui est ici, dont on parlera aussi. On a Catane. Et puis on a Palerme.
Palerme,
évidemment. Palerme, haut à gauche, oui, voilà. Palerme, j'en avais perdu. Hein. Donc après, bon, on parlera de ces différentes régions au fil de mon intervention. Donc comme je vous l'ai dit, la Sicile, c'est une île qui est sous influence et sous influence multiple. Ça a été pendant très très longtemps un lieu de passage entre l'Afrique et l'Europe. Un grand nombre de produits, d'ingrédients, de manières de travailler les produits, de méthodes culinaires sont aussi passées par là. Certaines se sont arrêtées, d'autres ne se sont pas vraiment arrêtées. Il y a une variété de topographie qui est très importante. Vous avez des montagnes, vous avez de la mer, vous avez des plaines. Il y a un volcan, ce qui en matière d'agriculture n'est pas neutre. C'est des terrains très particuliers, des climats très particuliers. Donc il y a une grande variété. Et globalement, ce dont on se rend compte, c'est que la gastronomie sicilienne, on peut dire qu'elle s'est construite autour de deux axes. Un premier axe qui est l'axe de l'héritage, en fait, de tous ceux qui sont passés par là, et l'autre axe qui, comme souvent, est celui des ressources. Parce que bon, il ne faut pas oublier qu'une partie des traditions gastronomiques se font aussi à partir des ingrédients et des produits qu'on trouvait, même si maintenant le froid, les transports, les conditions de conservation sont grandement améliorées. Il y a quelques centaines d'années, et même encore quelques dizaines d'années, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et donc un grand nombre d'ingrédients restaient sur place, ou voyageaient mal, ou voyageaient pas parce qu'ils ne se conservaient pas. Donc il y a tout un tas de méthodes de conservation qui sont propres à ces pays, d'autant plus que ce sont quand même des régions très sud, et que qui dit très au sud dit beaucoup de soleil, et on sait bien que la chaleur, ce n'est pas le meilleur moyen de conserver l'aliment au frais. Donc dans l'île, on se rend compte que l'île est assez étendue en largeur, on va dire. Ce qui veut dire, et en plus au milieu, il y a plutôt des montagnes. Donc du coup, ça veut aussi dire qu'il y a peu de... Enfin, peu. Il y avait à une époque assez peu de passages, assez peu de liens entre une partie de l'île et l'autre partie de l'île. Du coup, chaque région de l'île a gardé des spécialités. Et on se rend compte que dans la région de Trapani, la région plus à l'ouest, on est beaucoup plus proche, on va dire, des traditions culinaires maghrébines. Des traditions culinaires tunisiennes, revues et réadaptées, mais on est beaucoup plus proche de ces traditions-là, alors que de l'autre côté, côté italien, on est beaucoup plus proche des traditions culinaires italiennes, grecques, de cette influence-là. Et on trouve aussi une dichotomie assez intéressante entre deux types de cuisine en Sicile, qui est d'une part la cuisine, ce qu'ils appellent la cuisine des monzu, qui était le nom qui était donné aux cuisiniers, qui vient du terme « monsieur » en français. Les cuisiniers, historiquement, le bon cuisinier était français, un peu quel que soit le pays, quelle que soit l'époque. Et donc, du coup, la façon d'appeler le cuisinier, c'était un dérivé de « monsieur ». Et ça, c'était la cuisine plutôt des riches, avec des recettes, avec des ingrédients nobles. Notamment, on verra que la viande, on peut imaginer que vu la chaleur qu'il fait, les conditions d'élevage naturelles sans aide autre que ce qu'il y a comme ressources locales, c'est pas la Normandie, quoi. Donc la viande, il y en avait assez peu. Et la cuisine des pauvres, qui était aussi une cuisine de tous les jours, une cuisine assez nourrissante, mais beaucoup à base de légumes, à base de céréales et à base de ce qu'ils appelaient la viande des pauvres, le poisson. Ben, le poisson, c'est enfin, les ressources de la mer, sachant qu'il y a quand même une partie côte. Alors évidemment, si vous allez au cœur de la Sicile, juste au milieu où il n'y a pas de mer, eux, les poissons, ils ne connaissaient pas non plus. Ils n'en avaient pas vraiment non plus. Là. Eux, ils avaient comme viande des pauvres des céréales. C'est tout ce qu'ils avaient. Et encore. Mais surtout les pourtours maritimes, vous aviez et vous avez toujours énormément de poissons, de crustacés, de fruits de mer. Tout ce qui est mollusque, tout ce qui est poulpe, tous ces produits-là sont des produits qui ont toujours été extrêmement utilisés, mais pas très bien considérés pendant longtemps. c'est assez nouveau de considérer que ce sont des mets nobles. Si on essaie de faire un tout petit tour de ce qu'il y a dans les grands classiques siciliens, on va parler d'olive et d'huile d'olive. Vous allez me dire, ça c'est pas très original, à chaque fois je vous fais le coup. Hein. Mais bon, quelles que soient les régions en Italie, peut-être que si on fait la Vénétie l'an prochain, il y en aura moins. Hein. Mais bon, à part là, l'huile d'olive et l'olive, on est un peu passage obligé. Le vin, c'est un peu pareil. Il y en a partout, beaucoup. Le fromage, ça reste un grand classique, mais il y a quand même beaucoup de particularités du fromage sicilien et sarde. Et là-dessus, on verra qu'il y a une grande similitude entre les deux. Tout ce qui est poisson et fruits de mer, tout ce qui est légumes, tout ce qui est agrumes. Et en Sicile, contrairement à ce que j'ai pu vous dire auparavant, ou en général lors des conférences que j'ai pu faire, je vous ai dit souvent, vous savez, les desserts en Italie, il y en a un peu, mais ce n'est pas forcément le truc qu'ils font le plus. En Sicile, je reviens sur mes positions. En Sicile, il y a énormément de traditions de desserts, de sucrés, de sucreries. Et là, clairement, c'est l'héritage de l'Afrique du Nord qui remonte. Ça va jusque-là? J'ai perdu personne?
Non.
Donc on va commencer par les différents héritages, on va dire, au fil du temps. Au fil du temps, un grand nombre de populations sont passées en Sicile, sont restées plus ou moins longtemps, ont influencé plus ou moins lourdement la gastronomie sicilienne au fil du temps. Les premiers, peut-être pas les premiers, mais enfin les premiers qui sont intéressants en matière gastronomique, on va dire, furent les Grecs. Les Grecs sont restés un bon moment. Ils ont apporté la culture et l'utilisation de l'olive. Auparavant, il n'y avait pas ou peu d'olives en Sicile, et eux sont implantés, sont arrivés et ont planté des oliviers, un peu comme ils ont fait chez eux, comme ils ont fait un peu partout, comme ils ont fait aussi en Italie du Sud, puisque l'olive dans les Pouilles, en Calabre, vient quand même d'un héritage plutôt grec. Donc ça, c'est l'apport principal. Il y a beaucoup d'olives quand même en Sicile. Ce sont des olives qui, comme des variétés d'olives comme la Nocellara, qui sont des olives qui sont très croquantes, qui sont en général des olives vertes, et en fait ce sont des olives qu'on obtient, qu'on fait noircir, on va dire. On les fait pas noircir, on les laissant mûrir, ce qui est le cas d'un certain nombre d'olives, mais celles-ci, on les rend plus noires, on va dire, parce qu'elles sont pas vraiment noires, en les sortant de la saumure. Donc en fait, on les sort de la saumure et elles deviennent plus moelleuses et un peu plus noires, le noir étant l'oxydation. Donc ça, ce sont des olives qui en général ont beaucoup de goût, qui sont assez puissantes, qui font des huiles qui sont assez puissantes. Évidemment, il y a eu beaucoup de soleil. En général, bon, ça, je vous avais déjà mentionné plusieurs fois le rapport qu'il y a entre le fait d'être plus on va au sud, plus en général on a des produits qui sont gorgés de soleil, donc qui ont une certaine structure, une certaine force, et qu'on retrouve donc dans l'huile d'olive. L'autre héritage des Grecs, c'est la viande d'agneau. Je vous ai dit, on ne mange pas beaucoup de viande en Sicile, c'est vrai, il n'y a pas énormément de viande. Mais dans la viande, il y a quand même une tradition de manger l'agneau, qui n'est pas forcément une tradition très italienne en général. Ce n'est pas la viande la plus mangée en Italie. Autant on mange beaucoup le veau, autant on mange pas trop l'agneau, il y en a, mais c'est pas la viande qu'on mange le plus. En Sicile, il y a pas mal d'agneau. Le troisième élément qui est très important en termes d'héritage grec, c'est le miel. Dans la cuisine sicilienne, alors évidemment dans les pâtisseries, mais aussi dans les plats salés, on trouve énormément de miel. Il y a une grande variété de plantes, d'herbes, d'arbres, de fleurs en Sicile, et du coup il y a une grande variété de miel qui vont avec. L'autre héritage des Grecs, bon, les Romains ont un peu participé après et ont aussi contribué à faire que ça avance, c'est le vin. Il y a aujourd'hui une trentaine, alors je suis tombée un coup sur 28, un coup sur 31, donc bon, on va mettre une trentaine de cépages autochtones, c'est-à-dire des cépages qu'on ne trouve qu'en Sicile. Ou principalement en Sicile et qui ont éventuellement été un petit peu exportés. Dans les très connus, vous avez le Nero d'Avola, mais vous avez aussi la Malvasia, qui qui donne un vin doux. Vous avez Nero d'Avola, c'est plutôt un vin rouge, assez puissant. Vous avez Grillo, qui est un vin qui est assez... un vin rouge un peu plus léger. Vous avez Corvo, vous avez un certain nombre de cépages qui sont spécifiques. Dans les cépages de blanc, vous avez un cépage comme le Cataratto, qui est un cépage très, très fruité, beaucoup de corps assez fruité, très fruité comme, comme cépage. Et vous avez quand même 21 AOC dans les vins. Donc il faut savoir qu'en Italie, dans les vins, il y a trois niveaux, on va dire. Le plus haut niveau, c'est les DOCG. Mais comme c'est historiquement les premiers les vins les plus anciens, puisqu'ils ne revoient pas très souvent leurs leurs critères, les DOCG, c'est surtout les vins toscans, les vins piémontais. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que quand ils ont commencé à classifier les vins, comme c'est plutôt les gens du Nord, et que les gens du Nord considèrent un peu les gens du Sud comme au mieux des bouseux, au pire des mafieux, ça fait un peu tendance à dire, tant pis, on met toutes les DOCG chez nous, puis les autres, ils se débrouilleront, parce qu'ils ne savent pas travailler. Donc du coup, dans les DOCG, quand vous regardez, c'est quand même très orienté Tosca des Piémonts. Donc après, les AOC, c'est le niveau du dessous, mais qui est quand même un niveau assez restrictif en matière de cépage, de façon de produire, de région de production, de type d'assemblage, de vieillissement, de comment ça doit vieillir. Il y a 21 DOC, maintenant ça s'appelle, en Sicile. Donc un nombre assez important. Il y a une énorme évolution, on va dire, du vin sicilien, et quand je parlerai de la Sardaigne, on va voir à peu près la même chose, où on est passé de vins qui étaient principalement des vins de coupage, c'est-à-dire qu'on utilisait des vins siciliens en complément de vins un peu bas de gamme du Nord, pour donner un peu de sucre, pour donner un peu d'alcool. On mélangeait un peu de vin rouge sicilien avec un peu de blanc, on ne sait pas trop où, et puis ça faisait un rosé. Donc c'était pendant longtemps plutôt des vins pas terribles, qui étaient surtout forts, et qui étaient surtout utilisés pour apporter un peu de puissance et un peu cacher la misère des vins pas terribles qu'ils pouvaient trouver dans le Nord. Heureusement, c'est plus le cas. Et heureusement, cette mode-là leur est bien passée. Et aujourd'hui, on trouve vraiment des choses qui sont assez extraordinaires dans les vins siciliens. Il y a des choses qui sont vraiment très très bien faites et il y a de très jolies maisons de vins. Après, vous avez aussi des vins moelleux, notamment le Moscato de Pantelleria, Paul Passito, des vins qui sont des vins moelleux, très très renommés, très réputés, et pour le coup, on est sorti des vins bon marché, parce que là, on est sur des vins plutôt d'exception assez chers. Le dernier élément de l'héritage grec, c'est en fait la manière de saler la ricotta et de la faire sécher. La ricotta, c'est littéralement, enfin bon, vous parlez tous en italien que moi, donc on peut le faire, mais ça veut dire recuit. Donc en fait, on prenait les restes des fromages. À une époque, on évitait de perdre quoi que ce soit. Quand on faisait les tomes, quand on faisait des fromages, des pecorini, des fromages plus consistants, on faisait recuire les restes et ça faisait un fromage frais qu'on mangeait, peu gras, mais bon, qui nourrissait quand même un peu et qui permettait d'être mangé tout de suite. Or, les Grecs ont amené une nouvelle façon d'utiliser la ricotta, qui est de la faire saler, de la saler et de la faire sécher. Et en fait, quand on regarde bien, la feta, c'est un peu une ricotta sèche. Donc c'est un peu la version, enfin la même utilisation des produits et des sous-produits, on va dire, pour en faire un produit qu'on utilise. Ricotta salée, pas mal dans les plats. On la râpe éventuellement. Ou alors on s'en sert dans les desserts moins, ça plus dans des plats, mais un petit peu aussi dans certains desserts. Des questions? Alors, les Romains. Les Romains, bon, les vins, on va passer vite, on en a déjà parlé un petit peu.